Cover. Dub.
Cover. Dub.
Pour poursuivre le voyage sonore, rendez-vous sur le site web de l'émission
solenopole.org.
Bon, oh, Stadler!
Quoi? C'est fini?
Ben oui, t'as aimé?
Je sais pas, je me suis endormi dès le début.
Eh ben, t'as pas raté grand-chose.
Vous avez 5 secondes pour arrêter la demande. 5, 4, 3, 2,
شاف هالدنيا ونسنها من المكتوب إلى عبر ربي عمر داري منتو نهنا في هالدنيا ونسنها من المكتوب أنا مليت شراب
avec Eric Amiens. Tout à l'heure à 21h10 TU sur RFI.
Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 5h du matin à Alger, une heure de plus à Paris. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et à la une, les signes d'un réchauffement diplomatique entre la France et l'Algérie.
Avec la visite demain à Alger du ministre français de la Justice, puis dans quelques jours, celle du ministre algérien de l'Intérieur en France. Il sera notamment question du cas de Christophe Glaise, journaliste français incarcéré en Algérie. L'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda est une urgence de santé internationale, annonce il y a quelques heures de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Au Royaume-Uni, les candidatures se multiplient pour succéder à Keir Starmer, le Premier ministre de plus en plus affaibli. Hier, c'était au tour de Wes Streeting. L'ex-ministre de la Santé se dit prêt à reprendre les rênes et affiche une position anti-Brexit. Et puis la Bulgarie remporte pour la première fois l'Eurovision, ce concours de chant européen marqué cette année par un appel au boycott en raison de la participation d'Israël. Nouveau signe de détente entre l'Algérie et la France après des mois de tensions diplomatiques. Le ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, se rendra demain à Alger avec plusieurs hauts magistrats. Les deux pays veulent relancer leur coopération judiciaire sur des dossiers sensibles, lutte contre le terrorisme, narcotrafic, criminalité organisée, avec en toile de fond le sort du journaliste français Christophe Glaise, arrêté en 2024 en Kabylie et condamné à 7 ans de prison, Carlota Morteu.
Sécuritaire, mémoriel et maintenant judiciaire. La coopération entre Paris et Alger redémarre au rythme des visites ministérielles françaises. Le déplacement du garde des Sceaux Gérald Darmanin sera le troisième en quelques mois. Pour Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères du Parlement, cela marque clairement la fin de la stratégie du bras de fer avec Alger.
Le fait d'avoir tenu un discours à l'époque véhément contre l'Algérie ne peut avoir eu que des réactions négatives et donc d'avoir bloqué la relation. Et donc ce changement de méthode commence à porter ses fruits au bénéfice et de la France et de l'Algérie.
Place désormais au dialogue concret avec un dossier majeur, selon l'entourage de Gérald Darmanin, la détention du journaliste sportif Christophe Glaise, arrêté en Kabylie en 2024.
On attend bien sûr cette visite, un certain nombre d'éléments favorables à une possible libération de Christophe Glaise prochaine. En tout cas, ce sera pour moi un très bon indicateur de la relation entre les deux pays.
Si les polémiques sur les visas et les expulsions ont dominé le débat politique, la France et l'Algérie ont d'autres chantiers d'intérêt commun à relancer, renseignement, économie, énergie. Plus de 5 millions de personnes ont aussi la double culture avec un pied sur chaque rive de la Méditerranée.
La visite du ministre français aura lieu donc demain. Un ministre algérien se rendra lui en France dans les prochains jours. C'est celui de l'intérieur, Saïd Sayoud. C'est son homologue français, Laurent Nunez, qui l'annonce dans le journal La Tribune dimanche. Leur coopération à eux a mené à l'élimination d'un haut responsable du groupe État islamique au Nigeria. Les États-Unis et le Nigeria ont annoncé hier la mort d'Abu Bilal al-Minouki lors d'une opération conjointe. C'était l'un des terroristes les plus actifs du monde, selon l'armée nigériane. Pour autant, Harmony Pondinyaga, le pays est loin d'en avoir fini avec la menace djihadiste.
Après l'annonce du décès d'Abu Bilal al-Minouki dans des frappes aériennes menées par l'armée américaine, appuyées au sol par l'armée nigériane, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a déclaré attendre avec impatience des frappes plus décisives contre toutes les enclaves terroristes à travers le pays. La collaboration entre Abuja et Washington a été décisive dans l'élimination d'un CIO cadre du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, également appelé ISWAP, dans une zone aussi difficile que la région du lac Tchad, explique Malik Samuel, chercheur à Good Governance Africa.
Le groupe est plus fort aujourd'hui que jamais. On ne peut pas dire que l'attaque était le résultat de la vulnérabilité ou de la faiblesse du groupe. L'attaque était donc davantage liée à la technologie de pointe et à l'expérience des forces américaines présentes au Nigeria depuis quelque temps. Cela expose leur vulnérabilité. Cela montre qu'ils ne sont pas aussi forts ou aussi difficiles à atteindre qu'ils le pensaient. Tuer une personne n'est pas suffisant, à mon avis. Cela peut servir de revers temporaire.
Cette victoire symbolique ne signifie sans doute pas la fin de la menace islamiste, d'autant que le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest dispose de nombreuses ressources financières et humaines, mais aussi de véritables bastions où ils peuvent se mouvoir facilement. Harmonie Pondinaga, Lagos, RFI.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare ce matin une urgence de santé internationale après l'apparition d'une épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda. C'est son deuxième niveau d'alerte le plus élevé face à cette épidémie qui serait apparue dès le mois d'avril dans l'est de la République démocratique du Congo, en Ituri. Le Soudan du Sud est en alerte. Le Kenya a constitué une équipe de préparation. Le variant identifié pour cette épidémie est le variant Bundibugyo, un variant peu étudié et contre lequel il n'existe aucun vaccin. Le sud du Liban a essuyé hier de nouvelles frappes israéliennes et ce malgré l'extension pour un mois et demi du cessez-le-feu. L'armée israélienne divisait le Hezbollah. Le groupe chiite, lui, a dit cette nuit avoir frappé un objectif militaire dans le nord d'Israël. De son côté, l'Iran a fait état hier de discussions avec des pays européens pour franchir le détroit d'Ormuz. Téhéran a déjà permis le passage ces derniers jours de navires provenant de pays asiatiques. En Russie, au moins 3 morts à Moscou et sa périphérie. Après des attaques de drones cette nuit, ces frappes interviennent moins d'une semaine après la fin d'une trêve avec l'Ukraine. RFI, 5h06 à Londres, au Royaume-Uni, un concurrent déclaré pour remplacer le Premier ministre Keir Starmer. Wes Streeting a dit hier vouloir se présenter à sa succession à la tête du Parti travailliste et donc à Downing Street. Il a pris la parole hier, 2 jours après avoir quitté son poste de ministre de la Santé. Il a critiqué ouvertement le Brexit, une erreur catastrophique selon lui.
Notre plus grande opportunité économique est à portée de main. Nous avons besoin d'une relation nouvelle et privilégiée avec l'Union européenne, car l'avenir de la Grande-Bretagne est lié à l'Europe. Et un jour, nous pourrons de nouveau faire partie de l'Union européenne.
Au total, 4 membres du gouvernement britannique ont démissionné ces derniers jours. Une hémorragie pour Keir Starmer, de plus en plus isolé après des résultats désastreux lors d'élections locales il y a 10 jours. Il écarte toutefois toute idée de résignation. Les manœuvres sont donc en cours au sein du Labour qui se projette pour la suite et notamment donc avec les ambitions affichées de Wes Streeting. À Londres, Sarah Menaille.
S'il lorgne aujourd'hui ouvertement la succession du Premier ministre, Streeting n'a pas encore les 81 parrainages de députés nécessaires pour lancer les hostilités. En coulisses, d'autres rivaux s'activent déjà, comme le très populaire maire de Manchester, Andy Burnham, qui pour pouvoir briguer la direction du Parti travailliste doit d'abord obtenir un siège de député en gagnant la législative partielle de sa circonscription du nord-ouest de l'Angleterre, élection dont la date n'a pas encore été fixée. Malgré la rébellion d'une partie de son camp et si près d'un quart des députés de sa majorité réclament aujourd'hui son départ, Keir Starmer répète quant à lui qu'il n'a pas l'intention de démissionner. La crise rappelle inévitablement la trahison politique de Rishi Sunak en 2022, dont la démission avec fracas du gouvernement conservateur avait à l'époque fait chuter Boris Johnson pour propulser Sunak moins de 3 mois plus tard à Downing Street. Sarah Menei, Londres, RFI.
Londres, où des dizaines de milliers de personnes ont participé à une marche d'extrême droite, marche organisée par l'activiste islamophobe et anti-immigration Tommy Robinson. En parallèle, une marche pro-palestinienne et anti-raciste avait lieu dans la capitale britannique. Ces événements se sont déroulés sans incident majeur, selon les forces de l'ordre, qui ont toutefois arrêté 31 personnes, alors que se déroulait dans le même temps la finale de la Coupe d'Angleterre de football remportée par Manchester City contre Chelsea. L'OMS doit déclarer le changement climatique urgence de santé publique de portée internationale. C'est ce que réclame ce matin un groupe d'experts de haut niveau. Il s'agit de la Commission paneuropéenne sur le climat et la santé, composée d'anciens chefs de gouvernement, de scientifiques, de ministres et de dirigeants de la société civile. La vie de plusieurs millions de personnes en dépend, estiment les experts. Stéphanie Schuller.
Une urgence de santé publique de portée internationale est une alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est déclenchée quand une maladie ou un autre danger pour la santé risque de se propager dans plusieurs pays et nécessite une réponse coordonnées. Ces conditions sont justement réunies quand il s'agit du changement climatique et de ses effets de plus en plus néfastes sur la santé humaine, estime la Commission paneuropéenne sur le climat et la santé qui a été convoquée par l'OMS. Selon ses membres, les inondations, les sécheresses, les pollutions atmosphériques causées par les feux de forêt, l'insécurité alimentaire et l'augmentation des maladies transmises par les moustiques et d'autres vecteurs mettent des millions de vies en péril. Pour Sandrine Dixon-Desclève, membre de la commission, il n'y a pas de doute.
On est dans une urgence de santé publique à cause du changement climatique.
Il faut donc agir, sensibiliser les populations, adapter les systèmes de santé, mais aussi arrêter de subventionner les combustibles fossiles, directement responsables de 600 000 décès prématurés par an, rien qu'en Europe.
En football, on a évoqué le titre de champion d'Angleterre de Manchester City. Hier, 1-0 contre Chelsea. En France, pas de suspense, le Paris Saint-Germain terminera bien champion alors que la dernière journée de Ligue 1 débute aujourd'hui. A lieu aujourd'hui, Lens finira deuxième. Metz et Nantes, de leur côté, savent déjà qu'ils descendront en Ligue 2. Ce qui reste incertain, c'est la troisième place. Et il y a un enjeu, Baptiste Coulon, car qui dit troisième place dit qualification pour une Coupe d'Europe.
C'est une tradition. Lors de la dernière journée de Ligue 1, tous les matchs se déroulent en même temps, mais ça risque de chauffer sur certaines pelouses plus que d'autres. À Marseille, par exemple, l'OM est en pleine tempête depuis quelques semaines, mais les Olympiens peuvent encore sauver les meubles en terminant à la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa. Pour cela, il faudra battre Rennes, mais les Bretons, eux, peuvent toujours prétendre au podium, synonyme de Ligue des Champions. Personne ne se fera de cadeau au Vélodrome. Autre candidat à cette précieuse troisième place, Lille sera favori à domicile contre Auxerre. Mais attention pour les nordistes, Auxerre jouera pour sa survie en Ligue 1 et éviter la dangereuse place de barragiste. Un faux pas des Lillois pourrait alors profiter à Lyon, actuellement quatrième, un point derrière Lille. L'Olympique lyonnais recevra Lens, le vice-champion peut être déconcentré à l'approche de sa finale de Coupe de France vendredi prochain. Trois pelouses, des dynamiques différentes, mais un but commun, la manne financière vitale que représente une qualification en Coupe d'Europe, en particulier pour la plus belle, la Ligue des Champions.
Précision de Baptiste Leduc, c'est une autre belle compétition européenne. La finale de l'Eurovision avait lieu hier et c'est la Bulgarie qui remporte ce concours de chant. La Bulgarie, emmenée par la chanteuse Dara, remporte pour la première fois la compétition devant le candidat israélien Noam Betan. Une 70e édition marquée par un appel au boycott en raison de la participation d'Israël. La chanson gagnante donc qu'on écoute, Bangaranga, est décrite comme un hymne à la fête et à l'émancipation et on l'entendra encore à plusieurs reprises dans RFI Matin. RFI, il est 6h12 à Paris, 4h12 en temps universel.
RFI, toute l'actualité,
Marion Cazanov.
On reste ensemble encore pour une vingtaine de minutes avec le reportage international qui nous emmène dans le sud des États-Unis où des États républicains redessinent leur carte électorale suite à la modification d'une loi. Dans ce nouveau découpage, le vote des minorités est menacé. Des milliers de personnes ont manifesté hier en Alabama. Dans la chronique Défense, on part à bord du Charles de Gaulle. Le porte-avions français est arrivé en fin de semaine en mer d'Arabie dans un contexte de tension toujours vive dans le détroit d'Ormuz. Dans la chronique Vivre ailleurs, on parlera d'une arme sociale et culturelle redoutable en Iran, le tarof. C'est dans ta nature, nous emmène à la genèse, au point de départ de l'épidémie d'antivirus. On écoutera ensuite un extrait de l'émission L'Atelier des médias, tout cela avant le retour de l'actualité africaine. Donc aux États-Unis, en Alabama, dans le sud-est, où des milliers de personnes ont manifesté hier pour la protection du droit de vote des minorités. Un droit mis à mal par une récente décision de la Cour suprême qui a retoqué le Voting Rights Act. Depuis cette décision, des États du Sud comme le Tennessee, la Louisiane et donc l'Alabama, dirigés par des républicains, se sont mis à retracer les cartes électorales. L'objectif est de diminuer le nombre d'électeurs issus de minorités, des électeurs surtout démocrates. Et donc, les circonscriptions concernées dévieront sûrement côté républicain. Reportage dans la manifestation de Montgomery, signé Édouard Maille.
La journée démarre dans une église afro-américaine. Derrière le pupitre, plus d'une dizaine de pasteurs qui dénoncent la régression du droit de vote des minorités. Et puis, l'élu démocrate au Congrès, Terry Sewell.
Depuis cette décision de la Cour suprême, c'est une offensive coordonnée pour effacer des avancées obtenues de haute lutte et pour faire taire la voix des Noirs et des minorités.
Plusieurs centaines de personnes se mettent ensuite à marcher en direction du pont Edmund Pettus. C'est sur ce même pont qu'en 1965, des militants ont réclamé l'accès aux urnes pour les Afro-Américains, dont une marche violemment réprimée par les autorités. Les images choqueront le pays et permettront de passer la loi sur le droit de vote. Quand Death Award tient une pancarte, j'enseigne l'histoire, je ne m'attendais pas à devoir la répéter.
J'ai eu la chance de connaître tous mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, et ils m'ont raconté à quel point c'était difficile. Ils ne pouvaient pas voter, ils ne pouvaient pas entrer dans certains restaurants, ils devaient boire à des fontaines réservées aux Noirs et elles n'étaient pas propres. Ils ne pouvaient jouer qu'à certains endroits, ils ne pouvaient pas faire du vélo librement. Donc pour moi, ce moment est important. Il montre que ce pour quoi ils se sont battus ne peut pas être effacé.
Un immense rassemblement était aussi organisé à Montgomery, ville où a prêché Martin Luther King et où le refus de Rosa Parks de céder son fauteuil dans un bus a lancé un immense boycott contre la ségrégation. Pour Ashley Edwards, perdre ses élus démocrates aura des conséquences pour les habitants de ces régions, régions souvent très touchées par les inégalités.
On a des taux d'illettrisme très élevés, des taux de pauvreté très élevés, des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et moi j'ai peur que toutes ces politiques publiques censées aider les gens disparaissent si l'État de l'Alabama devient complètement républicain.
Pendant plusieurs heures, des personnes ont pris la parole, dont certains invités d'honneur, comme l'élu de New York, Alexandria Ocasio-Cortez.
Ce n'est qu'à partir de l'adoption du Voting Rights Act qu'on a pu avoir une démocratie dans ce pays.
Les organisateurs ont insisté pour voter en novembre prochain lors des élections de mi-mandat, espérant une vague bleue soit une immense participation et victoire démocrate, et ainsi contrer les efforts des républicains qui veulent maintenir leur majorité au Congrès. Edouard Maya, Salma et Montgomery, RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site ou bien sur notre application Pure Radio. On l'a vu dans le journal, l'Iran affirme discuter avec des pays européens pour leur permettre de traverser le détroit d'Ormuz. Le blocage de ce passage stratégique par l'Iran continue d'inquiéter les marchés, de faire grimper les prix de l'énergie. Plusieurs pays européens ont formé une coalition ces dernières semaines prête à sécuriser le détroit. C'est dans ce contexte que le porte-avions français Charles de Gaulle est arrivé il y a deux jours en mer d'Arabie. Les 1800 marins à bord sont en mer depuis bientôt 4 mois et s'organisent pour rester mobilisés pour garder le moral. Franck Alexandre a pu s'y rendre il y a quelques jours. Reportage.
Passerelle du Charles de Gaulle, il y a là un officier de quart, un barreur qui manœuvre le porte-avions avec un joystick. Il y a aussi le capitaine de vaisseau Thomas Puga. Un œil à tout, il est en charge de la conduite du navire.
L'effet militaire, il est porté par le bateau en lui-même, par sa capacité. C'est le fait de rester à la mer pendant longtemps, c'est nos capacités de mission. Et en fait, tout ce spectre, le compétiteur, l'allié, celui qu'on rassure, celui au contraire qu'on défie potentiellement, il le sait tout ça. Donc aujourd'hui, moi, la mission qu'on me demande, c'est de patrouiller, c'est de réassurer dans la priorité une non-participation au conflit directement entre l'Iran et les Américains et les Israéliens, puisque ce n'est pas notre sujet. Par contre, on a des alliés donc, à lesquels on amène notre participation et on dit qu'on contribuera à la hauteur de nos moyens pour les rassurer, pour les protéger si c'était nécessaire. Je pense qu'on a un vrai message, en tout cas c'est celui qu'on nous demande de porter, de réassurance vis-à-vis nos alliés et partenaires dans la région, ça c'est très important.
La barre est à zéro, bien.
Si cette opération navale voit le jour, ce sera nécessairement sur un temps très long. Le porte-avions et son escorte sont déjà en mer depuis 3 mois et la mission pourrait durer jusqu'à la mi-juillet. Ça va piquer, disent les marins.
Franchement, on va nous arrêter, putain.
Matelot Léon, en poste de quart et celui de barreur sur la passerelle. Oui, en effet, on est au cœur de l'actualité. En tout cas, quand on regarde les informations, c'est le cas. Le fait qu'on ait beaucoup d'activités permet de ne pas penser à autre chose. En tout cas, la fatigue n'est pas en tout cas, constamment présente, comme on pourrait le penser sur une mission qui dure aussi longtemps. L'esprit d'équipage fait que ça nous permet de tenir sur le long terme.
Là, pour le moment, c'est un rythme qui est plus ou moins souple. Quand on se rapproche des côtes des zones un peu plus, tendues, forcément, on a un rythme de quart qu'on appelle par bordée. On tourne à deux sur le même poste. Et celui-ci, il est plus dur à tenir dans la durée.
Et après, à bord, comment on arrive à retrouver du souffle?
Pour nous, en l'occurrence, ce serait le sport, juste dans notre coin, en faisant de la musculation, par exemple, de la course. Également, il y a des tournois d'échecs qui sont organisés, des petites activités cohésion qui permettent au bord de couper ce rythme et d'éviter une certaine lassitude. Pour le coup, si vous avez une certaine cohésion dans votre carré, vous pouvez commencer à rire de tout.
En 1988, la Marine nationale, avec le porte-avions Clémenceau, avait déjà sécurisé le détroit d'Ormuz. L'opération Prométhée avait alors duré 14 mois.
Reportage de Franck Alexandre. Le porte-avions américain Gerald Ford, lui, qui était déployé ces dernières semaines au Moyen-Orient, est de retour aux États-Unis. Le plus grand porte-avions du monde aura effectué une mission record, précise le Pentagone, avec 326 jours en mer. Avant d'être dépêché dans la région par Donald Trump, il a contribué aux opérations américaines dans les Caraïbes, notamment à l'enlèvement en janvier du président vénézuélien Nicolas Maduro. Et dans ce conflit au Moyen-Orient, on l'a vu, la population iranienne reste résiliente. C'est ce qu'est explore dans un livre Sina Abedi. Ce jeune auteur d'origine iranienne vient de publier Tarof, l'art de la guerre à l'iranienne, aux éditions Gondi Chapour. Il donne dans cet ouvrage les clés pour comprendre le Tarof, un mode de communication qui reflète une stratégie millénaire alliant la ruse, la diplomatie, l'instinct de survie. Sina Abedi répond aux questions de Corinne Manjou pour la chronique Vivre ailleurs.
Souvent on dit qu'au Tarof c'est une politesse exagérée à l'iranienne, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil que cela. C'est aussi une grammaire du lien et c'est aussi une manière iranienne de respecter l'honneur de chacun et parfois exercer une influence sans confrontation.
Pourquoi vous avez écrit ce livre ?
D'abord parce que je voulais comprendre quelque chose qui vit en moi, parce qu'on me dit souvent que je suis un fervent pratiquant de cet art, mais aussi en fait je voulais donner des clés de lecture à mes amis en France qui avaient parfois du mal à comprendre ces manières à l'iranienne, parce que parfois ce qui est vécu comme une sorte de délicatesse par certains peut être vécu comme absurde par les autres. Donc c'était à la fois une sorte de réponse aux doubles cultures qui vivent en moi. Donc voilà. Mais dans un premier temps, c'était un travail d'introspection.
Alors, pourquoi ce livre maintenant ?
En fait, ce livre a été écrit il y a à peu près un an. Bien sûr, aujourd'hui, l'Iran et la culture iranienne font face à une actualité brûlante. Ce livre n'a pas vocation à être un livre d'actualité, mais il est évident que sans avoir une certaine compréhension de cet art subtil de Tarof, on peut pas avoir une compréhension de la situation iranienne. Après, il faut faire attention parce qu'il serait une erreur de réduire tous les Iraniens au Tarof. Tarof est une sorte de porte d'entrée et c'est l'un des aspects de l'âme iranienne, mais il faut pas essentialiser les Iraniens à Tarof. Tous les Iraniens n'apprécient pas forcément cette culture. En fait, cette approche non directe n'est pas exclusivement iranien. Il y a d'autres cultures qui ont la même approche, mais le tarof iranien a sa propre signature, sa propre histoire. Et il faut aussi comprendre que cela s'inscrit dans une histoire millénaire. Je prends le cas de Scheherazade avec un fil de soie, avec des récits. Elle transforme son interlocuteur sans aucune violence et sans aucun mensonge non plus. Donc, parce que souvent, on a cette perception, par exemple en France, que là, Tarof est une sorte d'hypocrisie. Or, ça n'a rien d'hypocrisie. Il s'agit